Ça enregistre, Emmanuel, ou... Merci. Alors, nous continuons dans ce thème des mystères du Nouveau Testament. Et ce soir, j'aimerais qu'on voit le mystère de la piété. Il se trouve en 1 Timothée 3,16. Donc, vous connaissez peut-être déjà Jean 3,16. Eh bien là, on va apprendre 1 Timothée 3,16. Je vais lire, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Vous avez donc vu le mot, le mystère de la piété est grand. Qu'est-ce que c'est ce mystère de la piété? Qu'est-ce que c'est la piété? Et donc nous allons voir tout ça ce soir. Tout d'abord au sujet du texte lui-même, dans les manuscrits les plus anciens qui datent du IVe siècle, comme le Vaticanus ou Sinaiticus, il n'y a pas le mot « Dieu », c'est « celui-ci a été manifesté en chair » ou « celui qui a été manifesté » ou « celui-ci, ceci a été manifesté en chair ». Il n'y a pas « Dieu a été manifesté en chair ». Par contre, dans les manuscrits qui datent de la Réforme, qu'on a dans le texte reçu, par exemple, il y a le mot « Dieu ». Le fait qu'il y ait Dieu, ça appuie quoi? Ça appuie la Trinité et l'incarnation de Jésus. Pourquoi il dit « Dieu a été manifesté en chair ». Qui est manifesté en chair? C'est Jésus. Donc, Jésus est Dieu. Là, c'est évident dans ce passage. Mais il y a certains manuscrits qui n'ont pas Dieu, qui ont « ceci a été manifesté en chair ». Mais peu importe, parce que manifesté en chair, de toute façon, c'est Jésus-Christ. Et il est divin. Pourquoi certains manuscrits ont Dieu et d'autres ne l'ont pas? Parce que ceci, ça s'écrit en grec « os hein, »,« os », et Dieu, ça s'écrit « théos ». Donc il y a le « os » dedans, mais sauf que les scribes n'écrivaient pas « théos » en entier. Ils écrivaient deux lettres, le « theta », le « t » et le « s ». Et le « te » et le « s » ressemblent très fort à un « o » et un « s ». Et donc, ça peut être une cause d'erreur chez les scribes. C'est pour ça que c'est un avantage d'avoir beaucoup de manuscrits pour corriger de telles erreurs. On pense que ce verset est un des premiers cantiques chrétiens. Pourquoi? Parce que sa forme, d'abord, est poétique. Il y a un parallélisme. Vous avez en numéro 1, Dieu manifesté en chair. Au milieu, vous avez justifié par l'Esprit, vu des anges. Ensuite, prêché aux nations, cru dans le monde. Et à la fin, vous avez un solo, élevé dans la gloire. Donc vous avez en début, manifesté en chair. À la fin, élevé dans la gloire. Et au milieu, vous avez deux pavés. Et c'est vraiment une forme poétique de parallélisme. La poésie hébraïque ou la poésie même grecque ne faisait pas de rimes comme nous, mais elle utilisait des rimes de sens et des rimes de mots, des parallèles, des mots, des synonymes. Et on va voir un peu ça, mais aussi il y a le « sans contredit ». Je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible, là, le premier mot est « sans contredit ». Est-ce que quelqu'un a autre chose? Voilà. Or, le mot grec n'est pas tout à fait ça. Le mot grec, c'est l'idée d'un groupe qui se met d'accord. Alors, ça a donné sans contredit, c'est-à-dire personne ne vient contredire cette vérité. Mais le grec pourrait vouloir dire aussi l'assemblée, quelque part. Hein, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que ça nous prouve que c'est probablement un premier cantique. Hein. On est tous d'accord, pourquoi? Parce qu'on chante. Qu'est-ce qu'on chante, ce cantique? Dieu a été manifesté en chair, etc. Et il y a un autre cantique des premiers chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est en Philippiens 2, vous pouvez regarder avec moi si vous ne le connaissez pas. Philippiens 2. versets 6 à 11, hein, au sujet de Jésus-Christ, « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Là, on sent bien qu'il y a une louange, une adoration, un hymne. Hein? C'est touchant de découvrir dans la Bible les premiers cantiques des chrétiens. Hein? Ils avaient déjà leurs cantiques, hein? Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Vous avez remarqué que ces deux cantiques ont un même thème. C'est quoi le thème? Jésus-Christ. Très important ça. C'est que les premiers chrétiens aimaient Jésus-Christ, remerciaient Jésus-Christ, prêchaient Jésus-Christ, vivaient Jésus-Christ. C'est un historien romain qui, par mépris pour les chrétiens, écrit au sujet d'eux, hein, dans les premiers siècles, et il dit « Oh, c'est cette secte, hein, ils se réunissent le dimanche matin à l'aube pour chanter des louanges à leur Dieu qui s'appelle Christ. » Alors pour lui, c'était méprisable. Mais en fait, il est en train de décrire ce que faisaient les chrétiens. Dimanche n'était pas un jour férié au début, dans les premiers siècles. Donc avant d'aller au travail, à l'aube, ils allaient regarder le lever du soleil, parce que Jésus est ressuscité à l'aube d'un dimanche. Et là, ils chantaient des cantiques à la gloire de Dieu. Et après, ils allaient travailler. Et bien que le Seigneur nous donne une foi aussi fervente, aussi pure dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le mystère de la piété, en fait, bien c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être au centre de notre piété. Qu'est-ce que c'est la piété? Là encore, le mot signifie une bonne adoration, une bonne révérence, un bon respect, c'est-à-dire une adoration qui est digne de Dieu, un amour, une obéissance à Dieu. La piété, c'est à quel point on aime le Seigneur. Pas simplement par les mots, c'est pas dire je t'aime, mais par notre obéissance de cœur, par notre adoration. L'adoration dépend de notre amour. Si j'ai une reconnaissance faible envers Dieu, si je suis refroidi envers Dieu, quand je vais chanter des cantiques, ça va s'entendre. Hein. Je vais être un peu timoré, je vais chanter du bout des lèvres, surtout que certains cantiques sont tellement clairs que rien que de les chanter, ça vous oblige à vous remettre en question. Et puis, il y a des chrétiens, et on les voit hein, dans les réunions, qui chantent à tue-tête, ils chantent de tout cœur, parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont contents de lui dire, « Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es merveilleux, tu m'as sauvé. » La piété est liée à notre degré d'amour, d'obéissance. Mais quelle est la vraie piété? Quelle est la bonne piété? C'est celle qui est centrée sur Jésus-Christ. Il y a dans les cultes aujourd'hui des églises évangéliques parfois une adoration de l'homme. Et on va adorer le chanteur. Ils ont un super chanteur, tu vas voir une super chanteuse. Il faut que tu l'écoutes. Oui, mais on vient écouter Dieu, on ne vient pas écouter un chanteur. Où ils ont un super prédicateur, un orateur, il raconte des histoires, on rit, on pleure, il est merveilleux. Oui, mais c'est Christ qu'on vient voir à l'église, ce n'est pas un orateur. Et la vraie piété est centrée sur Christ. Et quand on pense à Jésus-Christ, il y a une adoration qui sort et on est rempli de Dieu à ce moment-là. On est vraiment dans la volonté de Dieu à ce moment-là. Christ n'est vraiment accessible qu'aux personnes qu'il aime. Si je n'aime pas Dieu, si je n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne vais rien comprendre à la croix, à la résurrection, à la vie chrétienne, à la Bible. La Bible a un code. Alors, il paraît que ce soir, il y a une émission qui parle du code de la Bible. Moi, je vais vous révéler ce soir le code de la Bible. Le code de la Bible, c'est Jésus-Christ. Si vous aimez Christ, la Bible va s'ouvrir. Si vous cherchez Christ, la Bible va s'ouvrir. Si vous cherchez autre chose, il y a des gens qui cherchent des bénédictions ou des promesses, mais d'une façon un peu malsaine, je dirais. Oui, je veux que Dieu me bénisse, alors je vais chercher un bon truc où Dieu me bénit. Dieu a promis de me guérir, alors là, je veux être guéri. Donc et on cherche des promesses, mais ce n'est pas forcément mauvais, parce que Dieu veut qu'on le prie, qu'on lui demande des choses. Mais si il devient distributeur de bénédictions, et la Bible, ça devient justement une sorte de chose magique, hein, on frotte, et si je frotte la Bible, ah, il va se passer quelque chose. On n'est plus dans la piété. On n'est plus dans la piété. La piété, c'est aimer Jésus-Christ. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il dit que Jésus est l'esprit de la prophétie. L'Apocalypse est un livre ô combien difficile, et parfois même fermé à nos intelligences et à notre compréhension. Mais il s'ouvre quand on pense que c'est l'Apocalypse, le titre réel, c'est « Révélation de Jésus-Christ ». Encore une fois, il est l'esprit de la prophétie. Il est le mystère de la piété, de la vraie adoration. Et Christ doit être au centre de notre foi, de notre amour. Nous n'adorons pas des saints, nous n'adorons pas des hommes, nous n'adorons pas des églises, des statues, nous adorons Christ, son œuvre et sa personne admirable. Il y a un livre qui nous manque en français, qui n'est plus imprimé, c'est « Le Christ incomparable » de Oswald Sanders. Vraiment, c'est un livre, si jamais vous le croisez, hein, ou que ce soit, prenez-le, parce qu'il décrit la personne de Christ, mais Christ homme surtout au départ. Mais il révèle les perfections de Jésus-Christ, son esprit à la fois de douceur et de fermeté, de justice, de miséricorde. Il montre qu'en Christ, il y a tout pleinement, la perfection est là. Mais il le montre avec des exemples concrets des évangiles et de la Bible. Et quand vous avez fini ce livre, vous êtes rempli de... Oui, c'est vrai, il est incomparable. Alors nous allons voir un peu maintenant ce cantique de 1 Timothée 3,16. Et il commence avec « manifester en chair ». C'est le mystère de quoi ?« Manifester en chair » de l'incarnation. En chair et en os. Le Dieu invisible, le Dieu qui est esprit, s'est manifesté à nous en chair et en os, en la personne de Christ. Il est devenu un homme qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait regarder, écouter. Et Christ est venu révéler la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, de ne pas voir Dieu, c'est difficile pour nous, de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais quand Christ est venu, il a vraiment montré qui est Dieu. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas montré la colère de Dieu. Il n'est pas venu en faisant tomber les gens à droite, à gauche, plaf, plaf, en faisant... Ce n'était pas du tout ça. Il est venu révéler, au contraire, la grâce de Dieu. D'abord, il est venu humblement. Il est venu pardonner les gens. Chaque fois qu'il allait quelque part, il amenait le pardon des péchés, la repentance, le salut. Combien de fois a-t-il dit « ta foi t'a sauvé » ? Même la femme adultère qu'on lui a amenée. Il était juste de la condamner, elle avait commis un adultère. Bon, ce qu'on se demande, c'est où est l'homme, hein, dans l'histoire. L'homme n'est pas présent, il avait commis l'adultère lui aussi. Mais bon, peu importe, on lui amène une femme. Et justement, ils l'ont amené pour le coincer, parce qu'ils ont dit, oui, lui, il veut pardonner tout le monde. Mais là, il ne peut pas la pardonner, puisqu'on voit bien qu'elle est coupable. On le sait, on l'a pris sur le fait. Et il pensait coincer le Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il a fait ce geste tout à fait étonnant. Hein. Il n'a rien répondu, il s'est mis à écrire dans le sable. On se demande bien ce qu'il a pu écrire dans ce sable. Et puis ensuite, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme, c'est-à-dire commence la lapidation, parce que c'était la peine de mort par lapidation que méritait cette femme. Et bien sûr, si on est sincère, moi j'ai péché aussi, oui. Le Seigneur avait dit, hein, dans le sermon sur la montagne, « Si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis un adultère dans votre cœur. Et tous ces hommes-là, ils avaient beau être des bons pharisiens, ils avaient certainement commis cet adultère dans leur cœur. Et personne, du coup, n'a pu jeter cette pierre. Et Jésus a dit à cette femme, « Ne pêche plus !» Donc, il a bien dit, « Je ne suis pas là pour bénir le péché. Ne pêche plus !» Mais il dit, « Personne ne te condamne. » Et sous-entendu, « Moi non plus. Je te laisse une chance de te repentir. » Et cette femme, visiblement, était repentante, puisqu'elle est venue au pied du Seigneur. Elle n'était pas du tout dans l'arrogance ou le déni. Le Seigneur est venu révéler qui est Dieu, un Dieu d'amour et de grâce, un Dieu saint aussi. Christ n'a jamais fait de compromis avec le péché. Même avec cette femme adultère, il n'a pas fait de compromis. Il a dit « ne pêche plus ». À aucun moment, le Seigneur ne s'est laissé acheter, corrompre, détourné de sa mission, et pourtant Satan l'a bien souvent tenté. Le mystère de l'incarnation, que Dieu prenne un corps et qu'il soit tenté comme nous en toutes choses, c'est ça qui est mystérieux. Dieu a accepté de se laisser tenter. Nous, quand on est tenté par du péché ou par des épreuves aussi, c'est le même mot dans la Bible, tentation et épreuve, c'est le même mot. On se sent parfois seul parce qu'on est très éprouvé. On dit c'est dur la tentation, je résiste, mais jusqu'à quand? Mais il faut penser que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses. C'est-à-dire, nous, on est tenté sur certains points. On n'a pas les mêmes tentations. Vous, vous êtes tenté par telle et telle chose. Moi, je suis tenté par telle et telle chose. Et un autre va être tenté par telle et telle chose. Mais Christ avait toutes les tentations qui l'ont attaqué. Particulièrement quand il était avec Satan, que Satan l'a rencontré sur cette montagne après qu'il ait jeûné 40 jours. Satan lui a proposé des choses, peut-être que vous, ça vous aurait laissé indifférent. Enfin, quoique, quand vous avez jeûné 40 jours et qu'on vous dit « si tu changes les pierres en pain, vas-y, change les pierres en pain », moi, j'aurais été tenté de changer les pierres en pain, si je pouvais le faire. Surtout que les pierres ressemblent de plus en plus à du pain au bout de 40 jours. Vous avez des hallucinations, vous voyez des pizzas qui flottent, vous voyez des choses. Et le Seigneur, là, il n'a pas bougé. Alors Satan est allé plus haut, il est allé dans le domaine de l'orgueil spirituel, dans le domaine du pouvoir, de la domination. Il a mis en haut du temple, il a dit « voilà, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, ils seront pour toi ». Il y a des gens dans ce monde qui aimeraient qu'on leur offre tous les royaumes. D'ailleurs, Satan le leur a proposé et ils ont fait un pacte avec lui. Mais Christ a refusé, il a été tenté en toutes choses et il a tenu bon. Et si ça peut nous encourager à tenir bon, parce que Christ est avec nous. Il est devenu homme et il est maintenant avec nous, dans notre tentation, dans notre épreuve. Le deuxième partie, c'est ce couple-là, justifié par l'Esprit, vu des anges. Là, c'est le mystère de la rédemption, après le mystère de l'incarnation. Pourquoi il parle du Saint-Esprit justifié par l'Esprit? C'est que le Saint-Esprit était présent à des étapes clés de la vie de Christ. Par exemple, à son baptême, si vous prenez Matthieu 3, verset 16, le Saint-Esprit est présent, et même le Père aussi. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, les gens ont pu voir l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe venir sur Christ. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais la même chose est arrivée après la tentation, Luc 4, verset 1. Juste avant, pardon, la tentation, excusez-moi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est le Luc 4, verset 1. Donc, Jésus vient d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert immédiatement après son baptême, apparemment. Et au verset 14, quand il sort vainqueur de la tentation, qu'est-ce qui est écrit? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Christ a gagné, si on peut dire, en puissance, en résistant à la tentation. Il est entré rempli du Saint-Esprit, il est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a une leçon pour nous aussi, hein. Quand on obéit à Dieu, que ce soit par le baptême ou par l'obéissance tout simple, Dieu nous remplit de son esprit. La plénitude du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une prière particulière ou je ne sais pas quoi. Quand on obéit à Dieu, quand on a un cœur entier, il nous remplit du Saint-Esprit. Mais après qu'on ait obéi, nous on est content, on est dans la joie, on est dans la victoire. Il y a souvent derrière une attaque, une contre-attaque, je dirais. Et là, on est tenté, on trébuche, on a des difficultés, des problèmes, on est tenté, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'il ne va pas y avoir des attaques et des difficultés. Et si on sort vainqueur par la grâce de Dieu, hein, ce n'est pas par nos forces qu'on va être vainqueur, hein, mais par la grâce de Dieu, de ces tentations, non seulement on sera rempli de l'Esprit, mais on sera revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que quand on va prier, quand on va témoigner, quand on va vivre tous les jours, il y aura la puissance du Saint-Esprit dans ce qu'on fait. Et ça change tout. Ça change tout. Beaucoup de chrétiens vivent sans aucune puissance spirituelle, sans aucun impact, parce qu'ils n'ont pas obéi au moment où Dieu voulait qu'ils obéissent, ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu et dans la tentation, à chaque fois, ils se sont laissés prendre. À chaque fois. Mais le jour où on dit, Seigneur, je veux passer cette tentation victorieusement et j'ai besoin de toi pour la traverser, et qu'on sort de cette tentation victorieuse, on a la puissance du Saint-Esprit. Christ, lui, a été justifié. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a été pardonné, ce n'est pas ce sens-là ici. Hein. Ça veut dire qu'il a été déclaré parfait. Le Saint-Esprit a rendu témoignage qu'il était le Messie. C'est ça, surtout pour les Juifs. Hein. Qu'il n'était pas juste un homme merveilleux. Il était le Messie, le serviteur de l'Éternel, le Shiloh, loin de Dieu, le promis, l'homme parfait. Et puis, même dans la résurrection, le Saint-Esprit a joué un rôle. On ne le sait pas jusqu'à ce qu'on lise Romains 1, verset 4. En Romains 1, verset 4, il y a cette parole de Dieu. L'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est que par sa vie parfaite, par son obéissance parfaite et par sa résurrection, Christ est peut-être déclaré fils de Dieu. Il ne trahit pas ce nom, il ne fait pas offense à ce nom, il est vraiment le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a prouvé dans toute son existence, depuis sa naissance miraculeuse, sa vie de miracle, son obéissance dans le baptême, dans la tentation, ses victoires permanentes et sa victoire sur la croix et par la résurrection, tout ça prouve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, l'Ancien Testament annonçait hein, que le Fils de Dieu viendrait, le Fils de David et le Fils de Dieu viendraient nous sauver. Il est le Sauveur. Et ce n'est pas juste parce qu'on l'a appris qu'il est le Sauveur ou qu'on nous l'a dit. Il l'est parce qu'il l'a prouvé. Le Saint-Esprit en rend témoignage. Et les anges aussi, parce qu'il est dit « justifié par l'Esprit, vu des anges ». Les anges étaient présents à quel moment de sa vie? Aidez-moi un peu. À sa naissance, vous vous rappelez l'assemblée des anges qui chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts hein. ». Les anges ont présidé, même il y avait l'ange Gabriel qui a apporté plusieurs messages hein, à Zacharie, à Joseph, à Marie. À Marie et à Joseph dans l'ordre, et puis les anges qui étaient là à Bethléem, donc grande présence des anges à sa naissance. Et puis après, à quel moment? Au moment de la tentation, et notamment peut-être... Alors, il y avait, je sais pas s'il est mention des anges sur la montagne de la Transfiguration. Je pense pas. Je pense qu'il y avait l'Esprit de Dieu, mais il y avait les apôtres, il y avait Moïse et Élie, pas forcément les anges, bien qu'ils devaient être là sûrement, mais c'est pas précisé, je pense. Mais à Gethsémané notamment, où... Et au moment de la tentation, effectivement, les anges le servirent. Je ne sais pas si dans quel évangile c'est. Ça doit être dans celui de Matthieu. Oui, parce que c'est Matthieu 4 et Luc 4, la tentation de Christ. Et donc, il doit y avoir ce verset qui dit « Les anges le servirent ». Voilà. Verset 11. « Le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Donc, vous voyez, il y a l'Esprit de Dieu et puis il y a les anges qui sont là. Au moment de Gethsémané, puis il y avait des anges aussi qui l'ont soutenu parce qu'il était proche de défaillir. Devant Pilate, il dit, hein, je pourrais appeler des légions d'anges à mon secours, donc je n'ai rien à craindre de toi, mais par contre, il faut que je donne ma vie. Et puis les anges étaient là, bien sûr, dernière étape. Voilà, c'est eux qui ont roulé la pierre et qui ont accueilli les disciples en disant, il n'est plus là, il est ressuscité. Vous voyez, les anges ont présidé et à la... C'est vrai. Oui, même l'ascension, la fin, puisque c'est, ils ont parlé aux apôtres. Voilà. Il reviendra comme il est parti. Tout ça, c'est très important parce que les anges sont les saints anges, ce sont les émissaires, les serviteurs de Dieu. Quand ils sont quelque part, c'est qu'il se passe quelque chose de saint, quelque chose de très important. Voilà, ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et ils ont vraiment un rôle très important. Et il n'y a que le Messie qui pouvait être appuyé par les anges de cette façon. Personne d'autre n'a été dans la Bible appuyé par les anges autant que le Seigneur Jésus. Il y a eu Élie, hein, quand il y avait ses armées angéliques avec lui, mais pas toute sa vie comme ça, comme le Seigneur Jésus. Et puis, prêcher aux gentils, cru dans le monde. C'est le couple suivant dans notre cantique, là. Prêcher aux gentils, cru dans le monde. Christ a été prêché aux non-juifs, les gentils, et cru dans le monde entier, c'est-à-dire pas seulement en Judée, en Israël. Partout, il y avait des gens qui devenaient croyants, disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est le mystère, on pourrait dire, de l'Évangile, du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un message qui est contagieux. Ce n'est pas un message qu'on peut garder pour soi. Il y a des gens qui disent, et particulièrement en France, on a cette mentalité, la religion, c'est personnel, c'est privé. Mais je peux vous dire, quand l'évangile rentre dans votre cœur, ça n'est plus privé du tout, parce que ça déborde, vous avez envie de dire aux autres, mais venez, regardez, buvez. Moi aussi, j'ai bu. D'ailleurs, nos proches, hein, sont toujours un peu étonnés quand on vient de se convertir. Ils disent, mais t'es tombé sur la tête, qu'est-ce qui t'arrive? D'où vient ce flot-là? Et puis tu veux tous qu'on soit comme toi, tu veux tous nous convertir. Ce n'est pas qu'on veut convertir les gens, c'est qu'on veut partager la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce message se répand comme une traînée de poudre dans le monde. C'est vraiment particulier. Il y a un certain nombre de messages qui se sont répandus par la force, par la guerre, par la peur. Mais l'évangile, et là je parle avant l'Église de Rome, hein, qui malheureusement a propagé son message à elle par la peur et la guerre, hein, mais l'évangile pur, l'évangile de Christ, lui, a été propagé par l'amour des disciples, a été propagé dans le sang des martyrs. Hein, et plus on les persécutait, plus il y en avait d'autres qui venaient. Et ça, c'est le mystère de l'évangile. Prêché aux nations, cru dans le monde. Désormais, ce n'est plus juste Israël, hein, on l'a vu, c'est le mystère des Juifs et des païens, le mur de séparation est renversé. Ce n'est plus que seulement que pour les Juifs, c'est pour le monde entier. On peut être disciple de Christ et suivre Christ, le connaître, et nous en faisons partie et nous louons le Seigneur pour ça. Et puis il termine, élevé dans la gloire, c'est le mystère de l'ascension. beaucoup de gens ne comprennent pas tout à fait l'ascension. On comprend bien la crucifixion, la résurrection, mais l'ascension fait partie de l'œuvre rédemptrice de Christ. On lit dans l'Épître aux Hébreux que quand il est monté au ciel, le Seigneur Jésus a présenté son sang au Père. Pourquoi? Parce que c'était l'image, enfin, l'autre côté du temple. Dans le temple, le souverain sacrificateur juif, une fois par an, entrait derrière le voile. Il n'avait ce droit qu'une seule fois par an, avec du sang d'animal. Il était lui-même aspergé de sang, hein. Il avait du sang dans une coupe et il prenait du sang et il aspergeait le coffre, là, l'arche d'alliance, son couvercle, qu'on appelle le propitiatoire. Et les péchés d'Israël étaient couverts pour l'année. Mais Christ a fait mieux, il est entré avec son propre sang dans le ciel même. Parce que le voile du temple symbolise la séparation entre le Dieu saint et nous, pécheurs. Entre le paradis céleste qui est pur et nous qui sommes pécheurs. Il y a un voile, on ne peut pas aller au ciel avec nos péchés. Mais Christ a ouvert le voile, et il est entré avec son sang et il intercède pour nous. J'aime beaucoup Romains chapitre 8, qui est vraiment un chapitre extraordinaire, hein. Et c'est là qu'il est écrit en Romains 8, 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est nous, hein, nous sommes sauvés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui pardonne. Qui les condamnera? Sous-entendu, personne, parce que Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Donc vous avez vu, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. La crucifixion, la résurrection, l'ascension. Parce que après sa mort et sa résurrection, il est allé s'asseoir. C'est vraiment le symbole dans la Bible, s'asseoir à la droite, hein, du travail achevé, accompli et de la victoire totale. Christ est au-dessus de tout nom, il a tout vaincu. La malédiction, le péché, la mort, tout ça, c'est vaincu. Et il intercède pour nous depuis sa place. Et ça, c'est une vérité ô combien précieuse. Christ intercède pour nous en permanence. C'est Jean, hein, qui nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, l'avocat qui intercède. Ça, c'est le vrai rôle d'un avocat. Aujourd'hui, un certain nombre d'avocats ne jouent plus ce rôle exactement. Mais un avocat, il est là pour intercéder et pour expliquer, hein, celui qui est mis en accusation, expliquer son cas, expliquer ce qui lui est passé par la tête, pourquoi il a fait ça, etc. Il est un intercesseur, il est un médiateur. Et Christ, il est notre avocat. Pourquoi? Parce qu'il y a un procureur qui nous attaque en permanence. C'est Satan. Satan s'appelle le diable. Le diable, ça veut dire l'accusateur. Et le diable nous accuse devant Dieu, comme il l'a fait pour Job. Si vous avez lu le livre de Job, dans le premier chapitre, Satan arrive devant le conseil céleste et il dit, et Dieu lui dit, pardon, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui, juste et qui craint Dieu. Et Satan dit, oh. Tu sais, si je le frappe un peu, lui et sa famille, il va te renier en face. Et donc Satan, il est toujours prêt à nous démolir. Et Dieu, lui, il dit, regarde mon enfant. Et Satan dit, je vais le démolir. Satan s'intéresse particulièrement aux chrétiens parce que ce sont eux ses pires ennemis. Un criminel, ce n'est pas un ennemi du diable, au contraire, il fait son travail. Mais un chrétien qui prie, qui évangélise, ouh là! Il travaille à l'inverse du royaume de Satan. Et il va donc essayer de nous démolir, de nous dire, mais tu es vraiment mauvais. Regarde tous ces péchés que tu commets encore, toi qui es soi-disant pardonné. Comment peux-tu t'appeler chrétien? Et puis, il essaye de nous démolir. Mais Christ intercède en permanence. Souvenez-vous de Pierre, lorsque Christ a été arrêté. Pierre, l'homme si fort, si impétueux, qui avait marché sur l'eau, qui avait fait des miracles extraordinaires. Le voilà qui suit Jésus parce qu'il veut être avec lui dans cette arrestation. Et puis il est là autour du feu. Et puis d'un seul coup, on lui dit, Dis donc, t'as un accent galiléen, toi, parce que les Galiléens avaient un accent. Tu serais pas un disciple de Jésus? Et là, le Pierre, fort, impétueux, merveilleux, il s'effondre. D'un seul coup, il dit, mais non, je ne suis pas avec Jésus. Et puis une deuxième fois dans la nuit, on lui dit, mais si, 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 tu étais avec Jésus. Mais non, mais non, mais non. Et la troisième fois même, la Bible dit qu'il jure. Il dit, je le jure sur je ne sais pas quoi, comme faisaient les Juifs, hein, que je ne connais pas cet homme. Et au moment où il dit ça, hein, certainement, il a dû croiser le regard du Seigneur. Le coq a chanté comme Jésus l'avait dit. Et là, il s'est effondré encore plus, mais en larmes de repentance et de doute. Mais ce que le Seigneur lui a dit, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. À nos yeux, on pourrait dire que sa foi a défailli, parce qu'il a renié le Seigneur trois fois. Mais en fait, sa foi n'a pas défailli, parce qu'il est revenu au Seigneur. Judas, lui, n'est pas revenu au Seigneur. Judas est allé se pendre. Sa foi a défailli. Si tant est qu'il avait la foi. Pierre, lui, a eu une chute grave, mais il s'est relevé parce que Christ a prié pour lui. Et vous savez, ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on renie le Seigneur, on peut le dire. On aurait dû ouvrir la bouche à ce moment-là et on a... Où on se trouve dans des endroits où on ne devrait pas être, à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et là, à un moment, le Saint-Esprit nous convainc de pécher. On se dit, mais moi, un chrétien, voilà, regarde où j'en suis arrivé. Et on pleure, on se désole. Et parfois, on pourrait être complètement découragé, mais Christ intercède pour nous depuis le ciel. Il plaide pour qu'on se relève, qu'on revienne à Dieu. Et chaque fois qu'on revient à Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus était derrière. Parce qu'il nous a ramenés à Dieu. Nous, on reviendrait dans les bras de Satan, hein, si on nous laissait. Mais Christ nous a rachetés et il nous tient dans sa main, il ne nous lâchera jamais. Le mystère de l'ascension, il est monté au ciel pour devenir notre avocat perpétuel, qui plaide avec son sang, avec ses marques de clous, en disant « j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle ». Il ne peut plus être condamné, c'est ça que dit Romains 8, hein. Vous pouvez l'accuser, vous pouvez dire « Oh, c'est fini, j'ai payé, il est justifié, déclaré juste aux yeux de Dieu. Il ne peut plus aller en enfer parce que le sang de Christ l'a lavé. » Combien c'est merveilleux d'avoir un sauveur comme Jésus-Christ. Le mystère de la piété, l'incarnation, la rédemption, l'évangile, l'ascension. Nous approchons de Pâques. Et c'est bien de relire la fin des évangiles, de se baigner à nouveau et de se mettre à la place des disciples, être le 13e disciple, voilà, si j'étais là, qu'est-ce que j'aurais fait ? De regarder Christ qui va à la mort comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent ou devant le boucher, et de voir qu'il a fait ça pour nous et de tomber en adoration devant le Seigneur. Si notre cœur est froid, si notre cœur est endurci, bien c'est le moment de revenir au mystère de la piété. Notre piété sera nourrie à nouveau de Christ, de tout ce qu'il a fait pour nous. On va terminer en chantant dans les ailes de la foi, nous t'adorons.